Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Vous voulez un whisky?
Oui, juste un doigt.
Juste un droit. Hey!
Peut-on suspendre l'audience quelques instants, votre honneur?
Bien sûr. L'audience reprendra dans un quart d'heure.
Écoute, Anne, je te jure...
Ah, arrête de jurer, arrête de jurer.
Et arrêtez de mentir, là, tous autant que vous êtes, merde!
Après en avoir délibéré, la cour déclare l'accusé coupable d'avoir, en la commune de Saint-Denis, donné volontairement la mort à messieurs Georges Henry, Grégoire Andersen et Michel Terlin, agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions.
Il y a ceux qui gagnent au loto et ceux qui sont tirés au sort. Et à moins d'être vraiment vénard, vous avez plus de chances d'être un jour juré d'assises que de trouver les bons numéros de l'Euromillion. Tant pis pour la fortune, on parle quand même d'une sacrée responsabilité. Je suis Romain Gouloumès, vous écoutez Juste un droit, et aujourd'hui on délibère sur le rôle des jurés. Dans les cours d'assises, où l'on juge les viols, meurtres et autres crimes, ce sont des quidams comme vous et moi qui rendent la justice. Hérités de la Révolution française, les jurys populaires sont l'incarnation d'une justice rendue au nom du peuple, par le peuple. Après avoir été désigné, un jury doit assister à toutes les audiences d'un procès et, aux côtés des autres membres du jury, se prononcer sur la culpabilité du ou des accusés qui lui sont présentés. Pas de boulot, interdiction d'en parler à son entourage ou aux médias, tout le reste de sa vie est mis entre parenthèses pendant toute la durée du procès. On peut pas dire que l'expérience soit de tout repos. Si vous ne faites pas partie des heureux élus, vous risquez quand même d'entendre parler des jurés pour une autre raison. Depuis la rentrée, des tribunaux criminels sont à l'essai dans 7 départements. Cette nouvelle instance pourrait hériter de la moitié des affaires jugées aux assises, en s'emparant des crimes passibles de 10 à 20 ans de réclusion, comme les viols et les vols avec armes. Avec une différence de taille, pas un seul juré ne sera mobilisé, uniquement des magistrats professionnels. Une fois que j'ai dit tout ça, comment la justice prépare-t-elle les citoyens à décider du sort d'un de leurs semblables? Les jurés sont-ils plus coulants ou plus durs que des professionnels du droit? Pour faire le point sur le rôle de ces juges citoyens d'un jour et leur avenir, Juste un droit a la chance de compter sur 3 invités qui ont juré de dire la vérité, rien que la vérité. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Mamelin, trésorière de l'USM, le syndicat majoritaire chez les magistrats. En tant que magistrate, vous avez d'ailleurs officié dans de nombreuses juridictions du Pas-de-Calais, notamment Arras, Douai ou encore Béthune. Bonjour Cécile Mamelin.
Bonjour.
Le micro suivant est réservé à l'écrivaine Anne Vantal, qui s'est inspirée de son expérience de juré pour écrire un livre, Peine maximale, sorti en 2010 dans la collection Jeunesse des éditions Actes Sud. Bonjour Anne Vantal.
Bonjour.
Je boucle la boucle avec l'experte maison de cet épisode, membre du service police-justice de 20 minutes, Caroline Politi. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors une fois n'est pas coutume, on commence avec une question de base. Céline Mamelin, je me tourne vers vous pour cette première question. Aujourd'hui, il y a des jurys populaires uniquement dans les cours d'assises, c'est-à-dire pour juger des crimes, les plus graves des infractions. Quel est le rôle, clairement, de ces jurys?
Alors, le jury populaire répond à la base au souci, bien évidemment, que les citoyens de nationalité française rendent la justice au nom du peuple et donc participent ainsi à l'œuvre de justice à côté des magistrats professionnels. Alors certes, ils n'ont pas la compétence technique ni juridique qui peut paraître nécessaire, mais ça a été conçu à l'époque révolutionnaire, hein, ça remonte effectivement à cette époque-là, pour que le citoyen se sente totalement impliqué justement dans le fait de juger ses concitoyens pour les faits les plus graves, qu'ils se sentent concernés par l'œuvre de justice. Et je pense que c'est aussi le meilleur moyen actuellement encore, de montrer aux citoyens lambda, qui ne connaît absolument rien de la justice, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas tellement, je pense, au niveau de l'organisation judiciaire, c'est très ignoré de la plupart des jeunes, par exemple, et c'est le moyen d'impliquer véritablement tout le monde, puisque ça essaime au-delà, je pense que notre juré ici présente pourra en parler, mais ça essaime bien au-delà du simple juré qui participe à ces procès très importants. Et donc, c'est véritablement un souci de démocratie citoyenne.
Donc, il y a une question de participation, en quelque sorte, de l'individu à l'œuvre de justice de l'État.
Exactement.
Caroline, alors maintenant, la question la plus évidente qu'on va se poser, c'est comment est désigné un juré?
En fait, c'est une désignation en plusieurs étapes. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être concerné, il faut avoir plus de 23 ans et être inscrit sur les listes électorales. Alors c'est justement sur les listes électorales qu'il y a un premier tirage au sort qui est fait par le maire. Ensuite, le maire, il envoie cette liste à la juridiction de rattachement, donc au département. En fait, c'est dans chaque département, il y a une cour d'assises, et en fait, qui effectue un deuxième tirage au sort. Et donc, c'est comme ça qu'établit une liste annuelle. En fait, avant chaque session d'assises, environ un mois avant, il y a 40 noms qui sont tirés au sort. Et donc, ce sont eux qui devront se présenter le jour J au tribunal. S'ils ne justifient pas de leur absence, ils peuvent encourir une amende de 3 750 €. Donc, le jour du procès, il y a un dernier tirage au sort. Celui-là, il est fait par le président de la cour d'assises et pour établir le jury, finalement, du procès. Donc, il y a 6 jurés en première instance, 9 en appel et éventuellement des suppléants selon les procès. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir être jury, il faut ne pas avoir été condamné à une peine de plus de 6 mois et ne pas exercer certaines professions, notamment être policier, gendarme, magistrat évidemment, ou membre du gouvernement, député. Enfin, certaines professions sont exclues de ce rôle.
Et quand je suis nommé ou tiré au sort juré, c'est pour un procès, plusieurs procès ?
Non, en fait, c'est pour une session, donc c'est à peu près sur un mois, et on peut être il peut y avoir seulement un procès qui dure un mois ou 3 semaines, et il peut y avoir plusieurs procès qui durent 3 jours, 4 jours. Et donc, quand on est appelé parmi ces 40 noms, on peut être tiré au sort plusieurs fois, ne pas être accusé, et donc participer à plusieurs procès d'assises.
Alors, tu as utilisé le terme de la question suivante, c'est le terme de récusé. Alors, si j'ai bien compris, on peut être nommé juré et ne pas siéger, donc ne pas officier en tant que juré. L'accusé et son avocat ainsi que l'avocat général peuvent récuser plusieurs jurés, 4 pour l'accusation, 3 pour le ministère public. Pourquoi finalement cette liberté donnée aux deux camps et comment ce choix est-il effectué? Comment on décide qui récuser et qui conserver?
Alors c'est une question un petit peu difficile parce que moi-même je n'ai jamais été dans la position de récuser. Je n'ai pas été ce qu'on appelle au parquet, c'est-à-dire la magistrature debout, celle qui se lève pour requérir au nom de la société. Je ne suis pas non plus avocat, donc ce sont les deux personnes qui peuvent le faire. Mais voilà, il y a un certain fantasme qui circule sur pourquoi justement récuser. Alors il faut savoir qu'au cours d'une session d'assises, on peut effectivement être nommé plusieurs fois, comme l'a expliqué Caroline. Et donc, parfois, on se rend compte, il faut dire les choses, je pense qu'on est là aussi pour expliquer aux gens, parfois on se rend compte qu'un juré ne s'est pas impliqué, a posé certaines difficultés. Enfin, voilà, il y a des choses qui... Ou alors un juré lui-même a dit, je ne souhaite pas, si jamais il y a un problème, je ne souhaite pas participer parce que dans ma famille, il y a eu par exemple un meurtre. Ce sont des choses qu'on ne sait pas et qu'on découvre parfois lors des procès d'assises. Et bien évidemment, on le dit à notre collègue du parquet, il est là pour rendre une bonne justice, voilà. Et donc on peut le dire. Certains avocats ont aussi des présupposés sur la composition des cours d'assises, il faut le savoir. Par exemple, en matière d'affaires de viol, tout ce qui est mœurs, ils sont persuadés que si on met trop de femmes, ce sera une plus lourde condamnation. On pourra en reparler par la suite, d'ailleurs il s'avère que parfois c'est plutôt l'inverse et je vous expliquerai peut-être pourquoi. Donc c'est très nébuleux en fait, je pourrais pas trop vous répondre, mais cette liberté je pense qu'elle est nécessaire parce qu'un jury évolue au fur et à mesure des affaires. On peut se rendre compte qu'effectivement certaines personnes peut-être sont plus ou moins piquées, peut-être que nous aussi, peut-être que le parquet a des informations sur une personne en disant bon voilà il ne pourra pas participer à ce procès d'assises. Alors, normalement, ça s'est fait avant, puisqu'il y a des causes d'incompatibilité, vous ne l'avez pas dit, mais il y a aussi tout ce qui est, par exemple, curatelle, tutelle, bien évidemment.
Oui, c'est ça, j'ai...
Voilà,
des cas de graves maladies.
Évidemment,
les proches, les proches de l'accusé ou de l'avocat,
tout,
évidemment.
Voilà, tout ce qui
vraiment
est proche.
Global. C'est vrai que j'ai donné les raisons les plus fréquentes.
Et malgré l'enquête qui est faite, parce qu'il y a des enquêtes qui sont faites sur tous les membres du jury, le procureur donne des enquêtes, un petit peu ce qu'on appelait avant les renseignements généraux, qui ne le sont plus. Donc parfois, malgré la qualité de l'enquête, cette personne vient à l'audience et reconnaît que, par exemple, son voisin a été témoin d'une scène de crime ou alors a pu témoigner, etc. Et donc on se fait passer le mot entre nous et d'où ces récusations. Et chez les avocats, alors là, je vous dirais que c'est effectivement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est encore plus, ça répond plus à des fantasmes sur la plus ou moins grande sévérité, sur le fait que si c'est quelqu'un de jeune qui est jugé, et ben faut peut-être pas mettre quelqu'un de trop jeune et donc mettre quelqu'un peut-être plus âgé qui sera plus compréhensif parce qu'il a l'âge de son fils, parce qu'il a l'âge de son petit-fils. Enfin, ce sont des choses qui sont de l'ordre un petit peu du raisonnement
C'est ce qu'on voit beaucoup à la télé américaine. Hein.
On le voit encore plus à la télé américaine, oui, tout à fait.
Tu as fait l'impasse sur les cours de diplomatie, on dirait.
Il suffit de séduire le jury, c'est pas ce que tu m'as toujours ressassé ?
Anne, je me tourne vers vous parce que vous avez été jurée en 2008, hein, si je me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment de tout cérémonial où vous attendez de savoir si vous êtes choisie en quelque sorte pour de bon ou si vous êtes récusée ?
Alors je pense que d'abord ça dépend des jurés. Dans mon cas, je m'étais préparée au rôle. C'est-à-dire que quand j'ai reçu la convocation, je me suis rendu compte que je connaissais très peu de choses sur la justice. Et j'ai pas eu envie d'arriver comme ça, sans rien savoir. Donc j'ai lu pas mal de textes de loi, j'ai vu ce qu'on attendait de moi, et je l'ai tout de suite pris comme un rôle de citoyen. Donc je reviens un peu sur ce que vous disiez au départ. Pour moi, c'est une obligation citoyenne. Donc il faut essayer de remplir le mieux possible cette obligation. Et au moment du cérémonial, j'ai trouvé que c'était bien, parce que ça mettait chacun dans son rôle, en fait. On comprenait très bien qu'on n'allait pas faire n'importe quoi, que c'était une affaire sérieuse. Et je pense que c'est important, ce cérémonial. Et après, au moment d'être choisie, moi, je trouvais que c'était une expérience qui avait l'air fascinante. J'avais eu la chance d'assister à un premier procès sans être tirée au sort, puisqu'on parlait de la façon dont on est tirée au sort. Donc le premier, je n'ai pas été tirée au sort, mais j'ai été autorisée à rester dans la salle, ce qui était très bien, parce que ça servait en quelque sorte de répétition générale. Je me suis rendu compte que quand on est dans la salle, c'est assez facile de se faire une idée. On a assez vite le sentiment que l'accusé est coupable ou innocent. On sait à peu près quelle peine il faudrait lui infliger, etc. Une fois qu'on y est, ça n'a rien à voir. Mmh. Voilà, ça n'a rien à voir.
C'est plus la télé, quoi.
C'est ni la télé. Alors justement, est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose sur la télé ? Au moment où je me préparais à l'état de juré, les gens autour de moi qui avaient entendu parler de cette convocation me disaient des choses incroyables. « Tu vas être enfermé dans un hôtel pendant des mois, tu ne pourras plus nous parler ni nous téléphoner. » Bon, parce qu'ils avaient en tête le procès Simpson aux États-Unis qui avait duré des mois et où, effectivement, aux États-Unis, on est enfermé, on ne peut pas parler. Bon, c'est très différent à Paris, on rentre chez soi le soir. C'est vrai qu'on a prêté serment et qu'on n'est pas censé discuter de l'affaire à la maison. Voilà, ça c'est... Donc, est-ce qu'on a envie d'être choisi ? Dans mon cas, je vivais ça comme une obligation qui ne me coûtait pas. C'est-à-dire que ça me fascinait plutôt. Je dois le reconnaître.
Et côté magistrat, comment on gère justement le stress ? En l'occurrence, Anne n'avait pas l'air trop stressée, mais éventuellement les interrogations de certains jurés. Est-ce qu'une discussion sur le rôle de chacun, sur l'importance finalement de la place de chacun dans ce procès, sans engage dès la première suspension d'audience, dès les premières discussions.
Oui, bien sûr, il ne s'agit pas de mettre d'un côté les magistrats professionnels, de l'autre le jury. Hein. Il y a véritablement une participation de tout le monde, d'abord lors de ce qu'on appelle des suspensions d'audience, hein, puisqu'on en fait quand même de temps en temps, parce qu'on sait que les jurés n'ont pas l'habitude de rester assis pendant 3 à 4 heures. Parfois, ça peut être long. Hein. Nous, magistrats professionnels, on est un petit peu habitués, mais eux ne le sont pas, donc on est quand même très vigilants à ce qu'ils aient des pauses. Et lors de ces pauses, on est bien sûr vigilants, surtout les assesseurs, hein, puisqu'il y a le président des assises et les deux assesseurs, les deux magistrats professionnels. Le président, généralement, il a besoin d'un petit peu de calme. Il n'est pas toujours présent. Enfin, ça dépend. Moi, je vous parle de mon expérience. C'était un peu moitié-moitié. Certains restent pour discuter, boivent un café. D'autres... Voilà, vont un petit peu dans leur bureau. C'est quand même très lourd, un procès d'assises pour un président. C'est lui qui dirige, qui mène ce qu'on appelle la police de l'audience. Donc moi, j'imagine bien qu'il a besoin, peut-être, lui. Et là, c'est notre rôle à nous, les assesseurs magistrats professionnels, de répondre aux questions le plus simplement possible, qu'elles soient techniques, qu'elles soient juridiques, tout en évitant de les orienter, par contre. Ce qui est très important pour un magistrat professionnel, ce n'est pas, j'allais dire assez vulgairement, étaler une science que n'aurait pas le magistrat amateur qu'est le juré, mais de l'éclairer, de le guider, de lui apporter des réponses quand même justes à une question éventuellement, ou juridique, etc. Mais surtout pas anticiper sur est-il coupable ? Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Non, surtout pas. On aura l'occasion peut-être après de parler du délibéré. Les très bons présidents d'assises, j'en ai connu beaucoup, les bons magistrats se font fort de justement pas... Enfin, c'est pas qu'ils n'évoquent pas l'affaire, ils l'évoquent. Mais on ne donne pas vraiment notre opinion. Parce que c'est important.
Œuvre de pédagogie, quoi.
Voilà, on fait totalement œuvre de... Vous avez, c'est ça, c'est l'expression. On fait œuvre de pédagogie et on répond au mieux. Et bien souvent, d'ailleurs, ils sont enchantés des questions, des réponses qu'on peut leur apporter, parce qu'ils ont effectivement, Anne le disait, ils ont une méconnaissance très importante du système judiciaire. Hein, et ils ressortent ravis de cette expérience, même si elle est lourde, même si elle est dure, même s'ils sont confrontés à des choses qu'ils n'auraient pas imaginées de l'être humain, hein, parce qu'on c'est vraiment vraiment quelque chose de très...
très
on est des affaires graves, les plus graves qui soient. Donc, c'est un petit peu... C'est vraiment des choses très graves. Et ils ont besoin qu'on les rassure tout en... Anne l'expliquait vraiment très, très bien. Ils sont tous très investis. J'ai rencontré quasiment... pas dans ma carrière, de jurés qui prenaient les choses par-dessus la jambe. Ouais. Ils ont vraiment tous le souci de faire au mieux. Et certains finissent véritablement grandis par cette... même si ça reste une petite épreuve, mais c'est aussi pour eux un beau défi à relever.
Et est-ce que vous en avez eu certains qui étaient dépassés par la tâche? Parce que finalement, leur décision, leur implication dans cette affaire va décider potentiellement du devenir pour des années d'une autre personne.
Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai que certains ont beaucoup de mal, pas pendant peut-être l'affaire, les débats, etc., mais en délibéré, ont beaucoup de mal sur la peine, sur la durée de la peine. C'est vrai que le fait d'enfermer quelqu'un en prison, il mesure à quel point c'est difficile, c'est la décision la plus dure qu'il soit. Et je pense véritablement que leur vision de la justice change, mais à 180, 360, on reviendrait au point de départ, mais elle change à 180 degrés. Parce qu'ils mesurent l'amplitude, l'ampleur de la tâche, la difficulté. Mais tous y parviennent. Alors certains s'expriment plus ou moins, on s'en rend compte. C'est ça surtout la grande difficulté, c'est la faculté ou pas, la facilité ou pas d'expression de certains jurés. Il faut savoir aussi qu'en fonction de la composition des jurés, on se rend compte que c'est un petit peu le bémol que je mettrais dans les jurys populaires, c'est qu'on se rend compte que certaines professions sont souvent sous-représentées. Mmh. Parce que ça reste une difficulté bien souvent liée à la profession qu'on continue d'exercer ou pas. Les professions libérales, par exemple, on a un peu plus de fonctionnaires, on a des gens, des retraités. Voilà. On ne peut pas dire que ce soit un jury véritablement représentatif au sens, par exemple, d'un sondage. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. De fait, on a des gens qui sont quand même avec un niveau d'expression et de compréhension qui souvent se révèlent vraiment bons.
Ah bah, Anne.
Est-ce que je peux intervenir?
Bah, bien sûr.
Sachant que les jurés sont tirés au sort dans chaque département, il est clair que la composition du jury n'est pas la même d'un département à l'autre.
En plus, voilà. Oui, tout à fait.
Ça compte.
Entre la ruralité,
la différence géographique
et... Oui, tout à fait.
Bien sûr.
Ça aussi, c'est très important.
Vous qui avez été également au sein des débats, quelle expérience, quel retour vous en avez aujourd'hui? Est-ce que c'était des débats vifs au moment du délibéré? Alors, on laissera peut-être Cécile Mamelin après réexpliquer clairement ce qui se passe lors du délibéré. Qu'est-ce que c'est qu'un délibéré? Mais est-ce qu'il y a des clans qui se forment? Enfin, moi, j'ai vraiment une image très américaine de ce genre de choses. Je suis pour, je suis contre. Ah non, moi, je pense à 10 ans, pourquoi 20 ans? Enfin, c'est vrai qu'on a une image quand même d'un vrai débat, quoi.
D'accord. Alors déjà, un délibéré, c'est en deux temps. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que l'accusé est coupable ou pas? S'il est déclaré non coupable par une majorité de gens, il n'y a plus de soucis à se faire sur la peine qu'on pourrait lui infliger. S'il est déclaré coupable, il va falloir réfléchir sur la peine. Donc ça, c'est le deuxième temps. Est-ce qu'il y a des clans? Mais moi, je dirais que ça dépend beaucoup de la façon dont le président gère les débats. Je pense que j'ai eu la chance extraordinaire de participer à cette expérience avec à la fois un président, mais aussi un avocat général qui travaillait extrêmement bien, qui était extrêmement consciencieux. Et comme le disait Madame Mamelin, pendant les suspensions de séance, on nous parlait. C'est-à-dire que si on avait une question à poser, c'était très simple. Alors, nous, on avait un président qui venait boire un café avec nous, qui discutait de tout et de rien. Et puis, si on avait une question technique, il répondait. Mais jamais, il ne nous a dit ce qu'il fallait qu'on pense. Donc ça, c'est important. Donc, l'encadrement du président au moment des délibérés, et également de ses deux assesseurs, bien entendu, est très important. La deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est qu'au moment du vote, on a tous le même vote. On a tous la même voix. C'est-à-dire que la voix du président ne compte pas plus que celle d'un juré lambda. Et ça, c'est important. Ça veut dire que le vote de chacun va compter. Et s'il compte, il ne doit pas être fait n'importe comment. Donc, ça prend du temps.
Mais Caroline. Justement, est-ce que le fait que chaque voix soit égale, ouais, ça ne met pas une pression supplémentaire? Quand on est juré pendant quelques temps, on ne pense qu'à ça? Quand on rentre chez soi, on arrive, oui, à couper. Est-ce qu'il y a une pression qui...
Oui, quand on rentre chez soi, on pense à ça. Parce qu'on sait qu'on est en train de juger quelqu'un et que ce n'est pas facile de juger quelqu'un. Voilà. Surtout si on est persuadé que la personne est coupable et qu'on sait d'avance... D'avance, ce serait trop vite dit. Disons le dernier jour. Si le dernier jour, on a une opinion qui est déjà faite. Quoique, elle puisse encore changer au moment du délibéré. Mais si on a vraiment cette conviction que l'accusé est coupable, il va falloir réfléchir sur la peine. Et on ne peut pas le faire n'importe comment. Ça, et puis, il ne faut pas se tromper. On ne peut pas envoyer en prison un type qui n'a rien fait. Mais on ne peut pas lâcher dans la nature quelqu'un qui est prêt à recommencer, voilà, qui a une dangerosité réelle, etc. Donc, c'est très compliqué. Il ne faut pas se tromper. Il faut au moins avoir l'impression que soi-même, on ne se trompe pas.
L'heure est venue, cavalier du rang. Vous avez prêté serment. Respectez-le pour le Seigneur et la terre.
Je rappelle juste effectivement l'étymologie hein, du juré, hein, ça vient de juratus, c'est le moment un petit peu latin, donc il y a prêté serment, et le serment,
oui, on prête serment, ouais.
Exactement, donc le doute prévaut toujours à l'accusé.
Oui, on ne va pas lire le serment aujourd'hui, mais c'est vrai que les serments sont, enfin le serment est très beau, enfin je trouve que l'expression du serment est très beau, très solennel, très digne, et je pense que quand on lit justement en début d'audience, déjà la prestation de lorsque chaque juré prête serment, mais également lorsque le président d'assises, lorsque les débats sont clos, lit également la façon dont les jurés doivent se positionner pour rendre leur délibéré. Je pense que les termes, alors c'est du beau français, c'est bien écrit, enfin moi je trouve que c'est fabuleux à lire,
c'est magnifique,
mais ça donne toute l'importance, et je pense que voilà, c'est vrai que les jurés partent avec un poids, mais vraiment ce qu'a dit Anne est fondamental, c'est chacun égal à un autre. C'est-à-dire qu'effectivement, d'où l'importance pour nous, magistrats professionnels, de ne pas faire prévaloir notre point de vue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on délibère, le président des assises se fait fort de donner la parole successivement à tout le monde. Bien sûr, il n'obligera pas la personne qui ne veut vraiment pas parler à s'exprimer. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une personne qui ne s'exprime pas du tout, il y a de fortes chances que si elle est de nouveau sélectionnée, malheureusement, on ne la prendra pas. Parce que l'importance de rendre la décision maintenant, elles doivent être motivées. Hein. Depuis plusieurs années, les décisions des cours d'assises doivent être motivées. Elles n'avaient pas besoin
d'être motivées autrefois.
Voilà. Donc c'est très important quand même pour le président qui va signer cette motivation avec le premier juré, parce qu'ils signent tous les deux. Hein. Le premier juré signe la feuille.
J'ai été premier juré dans une des affaires. Oui.
Voilà, je pense que
c'est
ça,
vrai
ça
que c'est très solennel. On se dit, il y a mon nom en plus. Quoi.
Alors, qu'est-ce que le premier juré?
C'est celui qui tire au sort le premier, tout
c'est
bêtement.
C'est pas le délégué de la classe.
Non, c'est pas le délégué de classe. Il se met à la droite du président, mais il aura le statut de premier juré. Et donc, le président le dit tout de suite d'ailleurs, vous signerez avec moi la feuille des questions. Les questions, c'est les questions auxquelles doivent répondre les jurés pour dire dans l'ordre, est-il coupable de telle chose, de tel fait, etc. Donc, il est toujours important que la parole circule. Si la parole ne circule pas, effectivement, là, il y a un souci. Et c'est là où on peut avoir des décisions véritablement
surprenante.
Mais il faut parfois laisser du temps.
Ça peut être horrible. Et là, je peux vous assurer que c'est horrible aussi pour les magistrats professionnels.
Qui subissent en quelque sorte.
J'ai déjà eu une collègue que j'avais formée, qui était une jeune magistrate, qui était revenue une fois me voir et qui m'avait décrit un procès comme ça, qui n'avait manifestement pas été bien peut-être conduit par... je ne sais pas, je ne critique pas, mais il n'avait manifestement quelque chose avait échappé et quelqu'un avait été acquitté et... Elle avait les éléments de toute façon pour dire que cette personne était coupable. Alors, bien évidemment, hein, présomption d'innocence, etc. Mais elle était.
Il y avait convaincue.
C'était une conviction qui reposait sur des faits tangentes, si vous voulez, des faits qu'on ne pouvait pas démentir. Et elle a été. Ça l'a vraiment beaucoup traumatisée de la façon dont ça s'était passé. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre que tout le monde doit s'exprimer parce que tout le monde doit pouvoir comprendre la décision qui a été rendue. Et même celui qui ne va pas forcément voter pour la culpabilité, peut-être que. Pour lui, c'est important. Et puis, ce n'est pas qu'on s'influence, mais on ne voit pas tous les choses par le même prisme. Et si on ne s'exprime pas tous, on ne voit pas forcément les mêmes choses. C'est un peu comme les magistrats qui tiennent beaucoup à ce que les décisions soient rendues de façon collégiale, par exemple. Et malheureusement, on y a le droit de moins en moins. Parce que, justement, quand on parle à son collègue, il peut penser autre chose sur un autre élément et ça peut faire quand même basculer une décision. Donc ça, c'est vraiment très, très important.
John Caffey, vous avez été condamné à mourir sur la chaise électrique par un jury populaire. La sentence a été prononcée par un juge faisant autorité dans cet état. Avez-vous quelque chose à dire avant que la sentence soit exécutée ?
Qui tranche à la fin ? Enfin, on a dit que c'était une décision à la majorité, donc c'est vrai qu'il y a 6 jurés, le président et ses 2 assesseurs, donc 9 personnes. C'est une fois qu'on a 5 personnes qui disent...
Voilà, c'est une question de la majorité qualifiée, etc. Et on ne dit jamais, par exemple, que ça a été voté à l'unanimité. Parce que ce serait trahir le secret.
Ce serait trahir le secret.
Hein,
voilà.
On dit toujours à la majorité qualifiée ou à la majorité absolue. On ne dit jamais à l'unanimité. Et ça, le président le dit quasiment à chaque fois.
Et le premier juré est chargé du dépouillement. C'est lui qui ouvre les portes. C'est des pratiques, c'est un peu généralement, mais parfois on passe un peu la main. Au moment où ça bascule d'un côté ou de l'autre, c'est toujours assez stressant.
Voilà, quelqu'un compte, fait les petits bâtons, ouais. Comme on fait les petits bâtons, et puis on dit, ah ben là c'est bon. Et les gens, au bout de 2-3 affaires, lorsqu'ils sont sélectionnés, ils vous font ça encore mieux que des magistrats professionnels.
C'est via bulletin ou ça se fait à...
Bulletin secret, bien sûr. Vous avez une urne qui figure au milieu, et ensuite tout est détruit.
Ok.
Est-ce que je peux dire quelque chose ?
J'ai tout à fait répondu
à l'histoire des clans. Vous avez dit, est-ce qu'il y a des clans chez les jurés ? Alors non, mais il y a des jeux d'influence, très clairement. C'est-à-dire que il y a des gens qui, d'emblée, se sentent des affinités avec d'autres. Ça se voit très bien au moment des suspensions de séance, par exemple. Et puis il y a des gens qui arrivent même en délibéré, hein, même au bout de plusieurs jours de procès, sans très bien savoir ce qu'ils en pensent. Et effectivement, le président doit s'arranger pour leur donner la parole à chacun. Il doit arriver à faire ce travail. C'est très important qu'on puisse s'exprimer individuellement. On l'a dit, je le redis. Alors après, pour les clans et les jeux d'influence, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup de facilité à s'exprimer, donc qui vont forcément tirer un certain nombre de gens vers eux. Et puis il y a ceux qui n'osent pas. Qui n'osent pas parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur de leur rôle. Et je l'ai vu, donc je ne vais pas trahir de secret, mais lors d'un délibéré où c'était un petit peu tendu parce qu'on n'était pas tous d'accord, il y a quelqu'un qui a fait bouger les lignes. Et ce quelqu'un était une femme dont le métier était d'être caissière dans un hypermarché. Voilà. Et au début, elle a dit non, je ne parle pas, je ne sais pas parler. Et en fait, peut-être qu'elle n'avait pas tout à fait les bons mots tout le temps, mais elle avait le ressenti. Mmh. Elle savait très bien ce qu'elle pensait et de l'accusé et de la victime. Et elle a réussi à faire passer extrêmement bien son émotion à elle. Et ça a fait bouger les lignes à ce moment-là. Voilà.
Efficace.
Très efficace. Ah, mais... Et elle ne le savait pas. Et j'ai trouvé que c'était magnifique qu'on ait réussi à la faire parler.
Caroline, je me retourne vers toi cette fois sur la question de la sévérité ou du laxisme. On dit souvent que les jurés sont plus ou moins sévères que les magistrats spécialisés. Qu'en est-il dans les faits ?
Alors, je ne me prononcerai pas sur la question, mais en fait, c'est vrai que c'est une question qui revient extrêmement régulièrement dans le débat politique. Par exemple, en 2010, quand Nicolas Sarkozy était président de la République, il avait évoqué l'idée de mettre des jurys populaires dans un tribunal correctionnel. Alors, ça venait après un fait divers qui avait ému l'opinion. C'était une joggeuse qui avait été tuée par un homme qui avait déjà été condamné pour viol. Donc, il y avait une certaine idée de laxisme derrière cette idée.
Les magistrats avaient été trop cléments, quoi.
C'était l'idée, en tout cas. Il y avait quand même une certaine bisbille entre Nicolas Sarkozy et les juges lorsqu'il était président. C'était pas franchement un amour...
C'est pas très bien passé. L'histoire des petits points en concert n'a pas été très appréciée, faut le dire.
Exactement, c'était pas le grand amour. Mais alors, à l'opposé, il y a certains magistrats qui vont dire certains jurés ont tendance au contraire à plus s'identifier à l'accusé, notamment sur des histoires de mœurs. Oui, mais c'est pas... Et donc, c'est pour ça que on n'a pas de réponse sur savoir si les jurés sont plus sévères ou laxistes, ça dépend vraiment. Et vous, peut-être, j'aimerais bien avoir votre opinion sur cette question. Est-ce que vous avez le sentiment d'un certain laxisme, au contraire d'une certaine sévérité des jurés ?
Non, moi, au bout de mes années de fonction, je pense qu'on peut dire que finalement, on retrouve à peu près les mêmes choses que l'on retrouverait chez des magistrats professionnels. Aussi incroyable que cela puisse paraître, mais... Justement parce qu'il y a une implication quand même très forte des jurés qui prennent très à cœur leur mission, avec un niveau qui le plus souvent est quand même bon, avec des gens qu'on arrive à faire parler. Si tout le monde arrive à s'exprimer, je pense que la majorité, elle arrive malgré tout à rendre une décision qui est à la fois cohérente. Bien évidemment, les magistrats professionnels sont très interrogés sur qu'est-ce qu'on va lui mettre comme durée de peine, vous ne pouvez pas nous aider, c'est dur pour nous, etc. Alors, ce qu'on leur explique bien, c'est qu'il y a un minimum, un maximum, qu'on a toute latitude. Bien sûr, il y a une certaine cohérence dans cette cour d'assises. Voilà, pour tel fait, on peut prononcer telle peine. On n'influence pas, mais on leur explique un peu le contexte. Alors, ce qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a des cours d'assises qui sont peut-être plus ou moins connues pour être plus ou moins sévères. On le disait tout à l'heure, la notion de ruralité, la notion de ville, c'est sûr que les débats ne sont pas les mêmes. Un crime commis en zone rurale aura un retentissement médiatique tel que ce sera peut-être un peu plus difficile pour les jurés de s'extraire d'une forme de pression. en ville où malheureusement, voilà, le crime est peut-être plus banalisé. Enfin, je ne sais pas s'il est un peu un jour banalisé, mais les choses seront un peu vues différemment. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, on peut pas dire, il y a une différence. Mais dans un juré, véritablement, la mission est tellement prise à cœur que je n'ai moi personnellement pas vécu. Des collègues l'ont vécu quand même. Je ne veux pas rendre les choses idylliques, mais moi, je n'ai pas eu le sentiment de revenir un jour chez moi en me disant « Cette décision de cour d'assises, c'est du grand n'importe quoi. Si ça avait été des magistrats professionnels, jamais on n'en serait arrivé là. » Je ne me le suis jamais dit. Donc, je pense que... Voilà, j'ai plus de 25 ans de carrière. Je pense que j'ai quand même fait quelques procès d'assises. Voilà, donc je pense que c'est plutôt un point de vue relativement objectif sur la chose.
Et justement, moi, j'ai une question qui s'adresse à toutes les deux. Est-ce que parfois on arrive à la fin d'un procès en n'ayant pas la moindre idée de justement si on a plutôt le sentiment que l'accusé est coupable ou non ? Est-ce que parfois, vous, quand vous avez mené les débats et vous, en tant que juré, ce sentiment de se dire « je ne sais pas ». Et comment on gère ce « je ne sais pas » ?
Moi, je pense que ça arrive dans les cas où il y a une accusation qui n'est pas étayée par la moindre preuve et où on se retrouve avec un accusé qui dit A, une victime qui dit B. C'est l'un contre l'autre. Il n'y a absolument aucun moyen de connaître vraiment la vérité, d'établir la vérité, ce qui est quand même le but du procès au départ. Et là, c'est à chacun d'essayer de ressentir quelque chose. C'est très compliqué. Il faut essayer de se souvenir de la façon dont les choses ont été expliquées, présentées, quels mots on a employés. Parfois, un mot peut être très important pour se dire s'il était innocent ou s'il était coupable. Il ne l'aurait pas dit comme ça. Voilà.
On garde en tête.
Il faut être très attentif. Voilà, on l'a pas dit.
Oui, c'est
fatigant d'être juré.
Il faut prendre des notes. Ce qui est important de dire, c'est qu'un juré ne peut pas consulter le dossier. Le dossier ne va pas avec le juré dans la salle des délibérés.
Ouais. Il n'a droit que
qu'à ses notes.
Ça s'appelle une audience. On a droit seulement à ce qu'on entend.
C'est l'oralité qui est très importante. La cause. C'est la seule justice entre guillemets de luxe qu'il nous reste dans notre pays. C'est l'oralité, les témoins, les personnes qui viennent en direct, la victime. Alors c'est lourd. Ce sont des procès effectivement qui prennent du temps. D'ailleurs, le texte sur la formule que lit le président d'audience avant de sortir décidé, c'est la notion d'intime conviction. Bien évidemment, on parle aussi des preuves qui sont... Mais comme l'a expliqué Anne, parfois, il n'y a pas de preuves tangibles, pas de preuves matérielles. Ce sont des procès, heureusement, qui sont à la marge. On ne retrouve même pas de cadavres, parfois. Ce n'était pas une affaire où je suis allée aux assises, mais dans une affaire, un homme a quand même été condamné du meurtre de sa compagne dont le corps n'avait jamais été retrouvé.
Oui, ça arrive.
Et il y a cette notion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le doute est important, le doute profite
toujours à l'accusé.
C'est la fameuse formule que quand même beaucoup de monde connaît. Donc ça, le doute profite à l'accusé. Mais il y a parfois effectivement un manque de preuves et la parole de l'un contre de l'autre. Ça reste quand même relativement rare. Moi, je ne l'ai pas vraiment connu. Ce sont les procès les plus médiatiques et ceux dont on parle le plus. Mais en réalité, il y a beaucoup d'autres procès qui, eux, ne posent pas ce genre de difficultés. Heureusement.
Bien évidemment.
Est-ce que l'accusé est prêt à entendre la sentence ?
La sentence ? Oh, mais auparavant, je dois être jugé.
La sentence d'abord ! On vous jugera après, effronté.
Mais c'est contraire à la loi.
La loi, c'est moi, Jacques Péronnel.
Oh, c'est une belle loi, votre majesté.
Vous avez compris, mon enfant.
Alors, si vous voulez creuser la question du doute, sachez qu'il y a un épisode de Justin Droit qui est consacré justement à l'importance du doute au tribunal. Je rembraye sur la question de l'influence, en tout cas de l'influençabilité des jurés, parce qu'une étude de l'Institut des politiques publiques de 2016 affirmait que les jurés sont influencés par les reportages TV diffusés la veille. C'est-à-dire que s'il est question d'une erreur judiciaire, les jurés seront plus cléments. En revanche, s'il s'agit d'un reportage consacré à un fait divers criminel, ils vont être un peu plus durs. Est-ce que vous prenez en compte le contexte médiatique, ce qui passe à la télé, ce qui est dit aux infos, au moment d'encadrer un jury ?
Là, c'est encore le rôle des magistrats professionnels de faire prendre conscience de ce poids, de cette pression du fait qu'il ne faut pas être influencé, qu'il faut garder une objectivité. Nous, c'est notre métier, donc on essaye de s'en extraire le plus possible. Ça n'est pas toujours évident, hein. Certains magistrats ont été soumis à des pressions médiatiques très très fortes, mais c'est quand même notre quotidien, donc on arrive à, on a des dispositifs pour s'extraire. Un magistrat non professionnel, bien sûr, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais s'il est entouré, s'il est bien encadré, comme on l'a expliqué tout à l'heure, si on a un bon président d'assises qui sait expliquer les choses, je pense qu'on arrive quand même, malgré tout, sur autant de personnes, à faire en sorte que la décision soit rendue en faisant abstraction au maximum de tout cela. Mais ça n'est, voilà, la justice parfaite, malheureusement, n'existe pas, le risque zéro non plus, et il peut y avoir des procès qui échappent. Et ça arrive.
Et puis, je pense que pour beaucoup de gens dans la vie courante, le dernier qui a parlé a raison. Donc, il faut faire très attention quand on est président, je pense, de faire parler le dernier qui va dans le sens de ce qu'on pense juste.
Après, dans tous les procès d'assises, les derniers mots reviennent toujours aux accusés. Ça, c'est la règle.
Bien sûr, je parlais du délibéré. Dans le délibéré, au moment où on dit, bon, juste avant de procéder au vote, le président peut demander à quelqu'un de faire une conclusion. Je suis absolument persuadée qu'il ne choisit pas quelqu'un par hasard.
Après, on n'a pas trop parlé des avocats, que ce soit l'avocat de la partie civile, que ce soit l'avocat de l'accusé. Ils ont aussi une facilité de langage, ils ont aussi des façons de regarder les jurés. On ne l'a pas du tout évoqué, mais c'est quelque chose qui est extrêmement troublant et sur lesquels les jurés posent énormément de questions. Ça les perturbe beaucoup d'ailleurs. Et on leur explique, mais ce ne sont, entre guillemets, hein, que des avocats. Ils viennent défendre un point de vue. Ils ne sont pas la personne que vous jugez. Ce n'est pas la victime. Mais là, ils sont un peu plus troublés parce qu'en plus, les avocats, c'est ce qu'on appelle, hein, les effets de manche.
Les effets de manche.
Vous avez les ténors du barreau. Vous avez des gens qui sont très forts pour ça. Et c'est un petit peu compliqué parfois de revenir derrière. Et c'est vrai que parfois, les dernières phrases d'un avocat sont quand même très importantes. Et ils le savent.
Bien sûr.
Bien sûr.
Et vous l'avez ressenti, vous, pendant le procès, justement, cette pression de certains avocats, ou ce sentiment?
Alors,
en tout cas,
j'ai eu le sentiment. Ben, moi, j'ai été jurée à Paris et j'ai eu la chance d'avoir non seulement un très bon président, mais aussi des ténors du barreau, comme on dit. Donc, j'ai eu l'occasion de voir ce que c'était que les effets de manche sur place.
On veut des noms.
Non, j'ai juré une bonne fois pour toutes.
Bon, tant pis, j'aurais essayé. On a beaucoup parlé de ce qui se passait pendant le procès, mais à l'issue du procès, est-ce qu'on est accompagné dans la digestion, le process, on va dire, d'acceptation de tout ce qui a été dit et du poids de la décision qui a été prise potentiellement par l'ensemble des jurés, ou en tout cas par une majorité qualifiée des jurés?
Non, alors là, on est lâché dans le grand bain direct. Et même après un procès très médiatisé, on est obligé de vous faire sortir par une petite porte pour ne pas tomber sur les journalistes. On se retrouve dans le métro et c'est parfois compliqué. C'est parfois compliqué. Je pense que là, l'âge joue. C'est-à-dire que j'ai vu des jurés jeunes, hein, 25, 28 ans, qui craquent. Ils craquent complètement. Ils sont en larmes dans le métro. Voilà. Parce que c'était trop dur.
Il y a eu des expérimentations qui ont été faites dans certaines cours d'assises de faire une sorte de cellule psychologique. Alors, c'est un terme un peu à la mode, mais qui, en l'espèce, peut s'avérer quand même assez intéressant. Malheureusement, après, tout est une question
d'argent.
Moyens, d'argent, hein, le nerf de la guerre. Et je ne saurais pas vous dire si ces dispositifs existent encore, mais ils ont été tentés, ça marchait plutôt bien, les jurés étaient satisfaits. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un grand manque, parce qu'on plonge véritablement dans un bain, excusez-moi l'expression, mais parfois d'horreur, certains jurés. Qu'on soit jeune ou pas jeune, ils entendent des choses.
Des choses qu'on n'imagine même pas.
Qu'on n'imagine même pas, qu'on ne dira pas à ce micro parce qu'elles ne sont pas, on ne peut pas les dire. Et on découvre tout ce que l'humanité est capable de faire de pire, hein, il faut le savoir. Moi, j'ai dit toujours que le meilleur scénario, le meilleur livre sera toujours dépassé par la réalité humaine.
Bon, c'est joyeux.
C'est la réalité.
Cela dit, je pense que chaque juré, encore une fois, réagit à sa façon. Il y a ceux qui vont avoir besoin d'une aide professionnelle et qui n'hésiteront pas à aller consulter un psy à un moment ou à un autre. Moi, je me souviens très bien qu'à l'issue du dernier procès, je suis partie me mettre au vert à la campagne pendant 3 jours et je pense que, à part bonjour, je n'ai pas dit un mot pendant 3 jours. Voilà. C'était impossible de parler.
Non, c'est une expérience à la fois.
J'étais totalement rendue muette par tout ce que je venais de vivre. Ouais. Bon, après, j'ai beaucoup parlé puisque j'ai écrit un livre, mais
Oui, il a fallu un peu de temps pour le digérer.
Il a fallu du temps quand
même. C'est sorti.
Voilà.
Oui, oui, c'est voilà. Souvent, c'est une expérience qu'ont beaucoup de, enfin, qu'ont eu quelques jurés. Hein. Je crois que vous n'êtes pas la seule à avoir écrit.
Non.
Je crois que d'ailleurs, dans une cour d'assises que j'ai fréquentée dans le Pas-de-Calais, il y a eu aussi un.
Alors, mais je précise que j'ai pas raconté une histoire vraie. Hein. J'ai écrit un roman.
Voilà. Un roman. Ouais. D'accord. Oui, oui. Ah, bah oui, bien sûr. Sinon, ce serait
c'est interdit.
Trahir le secret des délibérés.
Ça serait vraiment trahir.
Droit d'assurer sa défense suspendu. Droit à un verdict par un jury populaire suspendu.
Alors, on a fait cette émission sur les jurés d'assises et pourtant, bah, y a une question qui revient de plus en plus, c'est est-ce qu'on s'oriente vers une justice sans jurés ? Caroline, je me tourne vers toi.
Bah, en fait, c'est vrai qu'on se pose pas mal cette question parce que depuis longtemps déjà, il y a des affaires particulièrement techniques qui vont être jugées sans juré. Ça va être le cas du trafic de drogue international ou des crimes terroristes. Ou dans ces cas-là, c'est une cour d'assises dite spécialement composée, donc uniquement composée de magistrats qui va siéger et qui va rendre cette décision. Il n'y a pas de juré populaire. Mais depuis le mois de septembre, dans cette juridiction, on expérimente des tribunaux criminels départementaux pendant 3 ans. Ça va être en fait, c'est des cours sans jury populaire qui sont chargés de juger des crimes passibles de 10 à 20 ans de prison, donc des viols, des vols à main armée. Et en fait, l'objectif affiché par le ministère, c'est d'abord désengorger les cours d'assises, parce que parfois, il y a des mois, surtout, ou même surtout des années, avant qu'une affaire soit audiencée et puisse être jugée. Donc, il y a une volonté d'accélérer la justice et également d'éviter ce qu'on appelle une correctionnalisation des crimes, c'est-à-dire en fait une rétrogradation de certains crimes, principalement des viols, en délits. Donc un viol va se transformer en agression sexuelle pour être jugé par un tribunal correctionnel et donc accélérer le temps de la justice. Alors c'est une mesure qui ne fait pas l'unanimité. Globalement, même chez les avocats, elle est totalement décriée. Ils vont dénoncer une forme de classification des crimes. En gros, il y aurait les crimes très graves pour les assises, les crimes un peu moins graves pour les tribunaux criminels. Chez les magistrats, les avis sont beaucoup plus partagés. Vous, je sais qu'à l'USM, vous êtes plutôt favorable à cette expérimentation, c'est bien ça ?
Oui, oui, l'USM s'est prononcé plutôt favorablement pour l'instauration d'une expérimentation, du moins des cours criminels. Mais bien évidemment, tout dépendra des moyens qu'on mettra. Si jamais on dépassait le stade de l'expérimentation, d'abord, il est très important d'avoir des retours et des vrais retours de comment ça peut fonctionner. Alors, l'intérêt, c'est que justement, avant, vous l'avez très bien expliqué, beaucoup de crimes étaient correctionnalisés. Donc, concrètement, déjà, les victimes, malheureusement, et le plus souvent, il s'agissait bien évidemment d'abus sexuels, de viols, etc., étaient correctionnalisées. Là, maintenant, ça restera un crime. Donc, en tant que tel, sur un casier judiciaire, ce ne sera plus un délit, ce sera un crime. Donc, c'est quand même plutôt favorable aux victimes. Et puis, imaginez pour une victime de viol, passer devant une cour d'assises avec, comme l'a expliqué Anne tout à l'heure, tout un cérémonial qui certes est important pour mettre tout en perspective, est aussi facteur de stress et difficile à vivre. Une seconde, une troisième, une quatrième épreuve pour une victime de fait dans son intimité. Et donc certaines victimes vont peut-être se retrouver plus facilement à témoigner devant une cour criminelle ou devant 5 magistrats, dont elle sait en plus que ce sont 5 magistrats professionnels, parce que toutes les affaires ne sont pas en huis clos. Hein. Quand c'est un viol sur un adulte, il n'y a pas nécessairement de huis clos, ou alors il faut apporter des éléments, grande perturbation, etc. La justice est faite pour être rendue en audience publique, hein, sauf exception. Donc c'est quand même ça peut être un plus déjà pour les victimes d'être entendues devant une cour criminelle. Il faut savoir aussi qu'on n'abandonne pas le jury populaire, puisque s'il y a un appel, là on sera devant la même composition qu'actuellement. La cour sera une cour d'assises. Hein, quand ce sera en appel, ce sera une cour d'assises. Et ça sera uniquement limité, vous l'avez dit, mais aux peines maximum, enfin réclusion de criminels de 15 à 20 ans. Donc nous, on est plutôt favorable, mais on veut surtout que cette expérimentation ait un retour tout à fait objectif et qu'ensuite, si cela devait s'étendre, il faudrait bien évidemment y mettre les moyens, puisqu'avant, quand on correctionnalisait, on était 3 magistrats. Là, vous avez compté si on ne correctionnalise plus, c'est-à-dire que si tout ce qui était correctionnalisé est jugé en cour criminelle, on est 5 magistrats. Alors bien sûr, ils ont prévu qu'il pouvait y avoir ce qu'on appelle les magistrats honoraires, c'est-à-dire des retraités, pour parler clair, et des magistrats à titre temporaire, c'est-à-dire des gens de la société civile qui ont une formation juridique, etc., et qui, pendant 5 à 7 ans, viennent faire la justice chez nous. Hein. On en a pas mal, sauf que beaucoup aussi, parfois, arrêtent. Ce n'est pas une très longue expérience non plus, et puis ce n'est pas la panacée, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc il faudra qu'on ait les moyens d'étendre. Et vu l'état actuel des budgets de la justice, même s'ils augmentent régulièrement et on s'en félicite, ça reste malheureusement un peu insuffisant.
Mais en tant que tel, vous tenez au jury populaire ?
Oui, je pense qu'on tient au jury populaire, ne serait-ce que déjà au terme de l'appel, et puis pour les affaires effectivement les plus graves. Il ne faut pas. Ça n'est pas un abandon du jury populaire. Je dirais que c'est plus. La fin justifie les moyens, dans le sens où il faut peut-être juger des affaires qui méritent d'être jugées en ne les correctionnalisant plus. Parce que ça, c'était vraiment choquant. Je pense que c'était plus choquant de correctionnaliser. Même lorsque la victime était d'accord, parce qu'il fallait l'accord de la victime. Là, au moins, le crime restera un crime. Alors certes, ce ne sera pas le même cérémonial, ce n'est pas la même procédure, mais je pense que les victimes peuvent s'y retrouver malgré tout.
Oui, parce qu'effectivement, la correctionnalisation pouvait donner l'impression à la victime que
ça n'était pas grave.
Exactement.
Voilà. Et est-ce que justement, ces tribunaux ne donneront pas également ce sentiment que malgré tout, c'est un sous-crime, j'allais dire. Il y a cette question de la symbolique
Oui. Ça, ce sont ce que les avocats disent, bien évidemment. On ne peut pas être totalement contre cette idée. C'est sûr que ça n'a pas la même importance. Mais ça répond aussi à un souci de juger les gens plus rapidement. Je vous dis, la fin justifie aussi un petit peu les moyens. On a surtout des personnes libres qui attendent pendant des années d'être jugées. Ce n'est pas non plus normal.
Et on le rappelle, ceci est une expérimentation qui commence tout juste. Hein, donc il va falloir quelques mois avant d'en savoir davantage.
C'est une expérimentation sur 3 ans, donc on a le temps d'en reparler.
Quelques années, voilà. On termine avec une dernière question qui est plutôt de celle du registre, on va dire, du ressenti. Anne Vantal, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être jurée ? Et on parle d'une expérience qui était il y a plus de 10 ans.
Oui. Alors, ce que ça m'a apporté, déjà, c'est de mettre un pied dans la justice, ce qui ne m'était jamais arrivé, puisque j'avais jamais eu l'occasion de mettre les pieds dans une cour d'assises à quelque titre que ce soit. Je n'ai personne en prison autour de moi, donc c'était un peu l'inconnu. Et tout ce que je savais, ma foi, c'était parce que je lisais les comptes rendus de faits divers dans le journal ou parce que de temps en temps, je regardais une émission de télévision et puis c'est tout. Et le fait de voir fonctionner la justice, ça m'a apporté beaucoup. D'abord, ça m'a donné le goût d'en savoir plus. J'avais l'impression que le droit, c'était juste un truc très aride, totalement technique, qui ne m'intéressait pas beaucoup. Je me suis rendu compte que c'était fascinant quand c'était bien fait. Voilà, donc ça, c'est quand même un plus. Ça m'a permis aussi de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans la vie courante, aussi bien parmi les jurés que parmi les victimes ou les accusés. Alors, bon, on ne rencontre pas vraiment une victime ou un accusé, mais on l'entend pendant plusieurs jours s'exprimer. Moi, mon métier, c'est d'inventer des choses, d'inventer des romans, et voir cette espèce de galerie de portraits extraordinaire, une fois passé l'émotion, parce qu'on est dedans, ça a été très enrichissant, forcément. Mais on n'a peut-être pas assez dit à quel point, dans une cour d'assises, ce qui prime, c'est l'émotion, le chagrin. Le chagrin est très fort, de tous les côtés. Il y a le chagrin d'être dans le box, il y a le chagrin pour la famille de la victime, parfois pour la victime elle-même. C'est très très lourd et c'est une ambiance qui compte. Ça m'a beaucoup touchée, voilà, je dirais ça.
Ce que vous retenez, c'est l'ambiance, c'est...
L'ambiance, oui, de la cour d'assises.
La lourdeur.
Hein. La lourdeur et aussi le sentiment que ce travail a été bien fait. Alors je ne dis pas qu'il est toujours bien fait, mais pour moi, c'était un travail extrêmement bien fait. Ça compte.
C'est ce que tu veux dire chez le juge d'instruction ?
Sous la foi du serment.
Bon.
Je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, hein, c'est que, à de rares exceptions près, nous pourrions tous être jurés un jour ou l'autre. Et pour s'y préparer, rien ne vaut un petit échauffement que je vous propose maintenant, puisque alors, vous n'avez pas reçu de lettre avec en tête, hein, de votre mairie, mais je peux vous affirmer que vous avez été tiré au sort pour faire partie du jury de cette émission. Maintenant que vous avez assisté à toute l'audience, à vous de nous dire si Juste un droit est coupable d'être un bon podcast et s'il mérite ses 5 étoiles sur sa page iTunes. Pendant les délibérations, je vous laisse un peu de temps, permettez-moi de faire un tour de table et des remerciements. Anne Vantal, merci beaucoup d'être venue témoigner à notre micro.
Merci à vous.
Nous vous avons invité au titre de Peine maximale, qui est donc l'ouvrage que vous avez écrit en 2010, mais vous en avez écrit de nombreux autres depuis. Et le dernier s'appelle À la recherche de la Serena. Il est paru en 2018, toujours chez Actes Sud Junior. C'est bien ça?
Voilà, c'est ça.
Cécile Mamelin, merci beaucoup également. Je précise que vous êtes magistrate et trésorière de l'Union syndicale des magistrats, donc USM, le syndicat majoritaire de la profession.
Merci à vous.
Je la gardais pour la fin. Caroline Politi fait partie des 4 fantastiques du service police-justice de 20 minutes. Comme à chacune de ses participations, cet épisode lui doit beaucoup. Merci Caroline.
De rien.
Bon, on arrête là avec les confessions. J'attends votre verdict. À dans un mois. Et n'oubliez pas que justice soit faite.
Vous voulez un whisky?
Juste un doigt. Juste un droit. Hey!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.